La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Le 6 novembre 1914, les Britanniques débarquaient dans la ville de Faour, Mésopotamie, située sur le golfe Persique, près de Bassora. En guerre contre l'Empire ottoman, ils rencontraient alors la résistance des chiites irakiens en lutte contre l'expansion coloniale des puissances occidentales au Moyen-Orient. Mais en 1920, le projet d'État-nation imposé de force par les Anglais se conjugue avec d'autres projets, ceux de certaines élites arabes et sunnites. Ces élites, qui avaient été les relais locaux du pouvoir ottoman, se mettent alors au service des nouveaux maîtres du pays. Si depuis sa naissance, l'Irak a connu de multiples guerres et tragédies, l'État irakien n'a-t-il jamais été légitime et souverain au regard de ses relations avec les puissances occidentales? Pour répondre à cette question irakienne, j'ai demandé à Pierre-Jean Louisard, spécialiste du Moyen-Orient et directeur de recherche au CNRS, de revenir avec nous sur la longue histoire de l'Irak, un État sous contrôle. Bonjour Pierre-Jean Louisard.
Bonjour.
Et merci de venir partager avec les auditeurs de RFI votre travail de recherche sur le Moyen-Orient, mais aussi votre connaissance du terrain, et notamment de Bagdad, où vous vous rendez depuis de longues années. Alors une petite question peut-être plus personnelle, à quand remonte votre première rencontre avec l'Irak, et qu'est-ce que ce premier contact vous a appris de ce grand pays ?
Ma première rencontre avec l'Irak était à l'époque du régime de Saddam Hussein et c'était il y a très longtemps. J'étais adolescent, sac à dos, je venais d'Iran et j'étais arrivé à Koweït en bateau et nous avions remonté la vallée de l'Euphrate en stop. Et c'est à cette occasion qu'en arrivant dans la ville sainte de Najaf, j'avais été sidéré de voir ces centaines de milliers de pèlerins. C'était l'époque de Ashura, mais évidemment à l'époque ça ne me disait absolument rien.
Alors, je rappelais en ouverture de cette émission que l'État irakien a été fondé par les Britanniques en s'appuyant sur une partie des élites arabes. Mais à l'époque, est-ce qu'on peut parler de la création d'un État confessionnel ?
Oui, tout à fait. À la différence de l'État syrien, par exemple, qui était sous mandat français, qui n'avait pas de coloration confessionnelle, l'État irakien était un État sunnite dès son origine, autant dans sa composition, puisqu'il a exclu les chiites et à partir de 1925 les Kurdes, que dans sa conception, puisque c'était un État qui se légitimait au nom d'une nation arabe majoritairement sunnite, alors qu'en Irak, on le sait, les chiites sont très largement majoritaires.
C'est au son de nos archives que je vous propose de revisiter la longue histoire de l'Irak. Et tout d'abord, cette année 1958, où l'Égyptien Gamal Abdel Nasser porte le projet de la République arabe unie, présenté ici par le président du Conseil syrien.
Le président Assali définit le caractère de la nouvelle République arabe. Un seul président, un seul parlement, un seul drapeau, une seule armée, aucune distinction entre les deux peuples syriens et égyptiens. C'est ensuite au président Gamal Abdel Nasser qu'est passée la parole pour, à son tour, s'adresser au peuple égyptien et syrien. Ce jour où s'unissent la République égyptienne et la République syrienne pour faire une République arabe unifiée, ce jour est un des jours de la vie dont on a tout lieu de se glorifier à jamais. Aujourd'hui, le peuple arabe en Syrie et le peuple arabe en Égypte décident, déclarent leur décision et proclament le nouvel État, un grand État, la nouvelle République arabe unifiée.
La voix de Nasser dans la marche du monde, dans ce moment historique de la création de la République arabe unie. Quelle est la raison principale de l'absence de l'Irak dans le projet nationaliste arabe de Nasser, Pierre-Jean Louisard ?
La raison principale est que l'Irak, en 1958, précisément, a connu une révolution anti-monarchique qui a libéré des forces qui avaient été réprimées depuis 1920, à savoir le mouvement chiite et les Kurdes. Le mouvement chiite était très majoritairement représenté par le Parti communiste irakien à l'époque, et ce nouveau régime républicain en Irak s'est opposé à Nasser au nom d'une conception irakiste, irakienne, qui mettait en avant la spécificité de l'Irak dans le monde arabe du fait de sa majorité chiite et de sa forte minorité kurde.
Alors effectivement, 58, c'est donc l'année de la révolution en Irak.
Ici Jacques Salbert à Londres. Il ne semble pas pour l'instant que les forces militaires britanniques soient prêtes à voler au secours du gouvernement Nouri Essaïd. Il est très possible que dans l'espoir de sauver une partie de leurs intérêts financiers du Golfe Persique, ils préfèrent trouver un modus vivendi quelconque avec les nouveaux maîtres de l'Irak. Tout le monde a besoin du pétrole. Les Anglais, aussi bien que les Irakiens, qui ne dédaignent pas les royalties. L'importance des intérêts britanniques est telle dans le golfe Persique qu'on est bien obligé d'en tenir compte au premier chef. L'affaire d'Irak est un problème économique avant d'être un problème politique. Après plusieurs jours de blackout complet, des informations commencent à arriver de Bagdad. Et ce matin, Sefton Delmer, grand reporter du Daily Express, publie un compte-rendu des événements du 14 juillet tels qu'ils lui ont été racontés à Bagdad. Il paraîtrait que les militaires gangsters, comme les appelle Delmer, auraient rassemblé dans une cour de la résidence royale toute la famille, y compris le roi Faisal, le prince Abdul Hilal et deux enfants de moins de 10 ans, puis, tranquillement, toute la famille aurait été exécutée par la mitrailleuse d'un tank. L'opération aurait duré quelques minutes et le corps du prince Abdul Hilal aurait été ensuite jeté en pâture à la foule. On espère que cette version officielle est la vraie, car personnellement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi affreux que les photographies montrant les corps affreusement mutilés de Nouri Saïd et du prince Abdul Hilal. Ces documents photographiques, qui sont à peu près les seuls à avoir pu franchir les frontières de l'Irak, sont tellement horribles que jusqu'ici, aucun journal n'a osé les publier à Londres. C'est en réalité une page d'histoire qui a été tournée aujourd'hui. Les Anglais se trouvent dans la même situation que la France s'est trouvée lorsque nous avons été obligés de quitter la Syrie et le Liban. C'est une nouvelle victoire du panarabisme. La présence occidentale au Moyen-Orient n'est plus, à partir d'aujourd'hui, qu'un souvenir historique. Ici Londres, Radiodiffusion française.
Et c'est ainsi que le journal Parler rend compte de la naissance de la République d'Irak en 1958. Que vous inspire cette archive de la radio-télévision française, Pierre-Jean Louisard ?
Alors, elle voit les choses en Irak du point de vue occidental, puisque la révolution de 1958 a mis à bas une monarchie, la monarchie hachémite, qui était honnie par une grande partie de la population irakienne du fait de ses liens avec les Britanniques et du fait de la répression. Là, on essaie de faire pleurer les foules sur le sort de la famille royale, mais il faut rappeler que le Kurdistan vivait en état de guerre depuis pratiquement le rattachement de Vilayet de Mossoul en 1925 à l'Irak, et que les chiites, à travers le mouvement religieux puis le parti communiste, étaient soumis à une répression féroce. La monarchie hachémite était loin d'être un régime tendre, même s'il y avait une fiction de vie politique et parlementaire.
À l'époque, cela signifie donc que la France a le même regard sur ce qui se passe en Irak que les Britanniques.
Oui, il y a une solidarité occidentale entre les deux puissances mandataires, et l'arrivée d'une révolution n'est jamais une bonne nouvelle pour des ex-puissances mandataires, surtout quand celle-ci met à bas un régime qui, avec sa chute, risque d'entraîner tout un système politique qui avait donné le monopole du pouvoir à une communauté.
Alors, suite au coup d'État d'Abdelkarim Kassim contre la monarchie hachémite d'Irak en 1958, Mustafa Barzani, le fondateur du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, jusque-là clandestin, est invité à quitter son exil soviétique par le nouveau pouvoir républicain. Écoutez sa voix quelques années plus tard, c'était en 1962.
La situation dans laquelle nous nous trouvons ne nous laisse pas d'autre alternative que de demander une autonomie dans le cadre de l'État irakien, afin de retrouver liberté, sécurité et bien-être. Étant donné que c'est l'aspiration de tout notre peuple dont je fais partie, je participe à cette lutte de toutes mes forces. Par contre, la création d'un État kurde indépendant, cette accusation qu'on essaye de porter contre nous, je puis vous en assurer, n'est pas vraie. Cela n'a pas été notre objectif à aucun moment. En ces années de lutte, vous êtes donc devenu en quelque sorte vous-même un symbole. Vous pouvez informer le monde entier que je ne suis ni le maître ni le patron de ce mouvement. Je suis peut-être le plus humble serviteur de ce peuple. Je ne désire que le servir. Nos succès ne sont pas mon mérite, c'est l'œuvre de tout notre peuple kurde. C'est notre peuple qui l'a fait et qui continue de le faire.
La voix de Mustapha Barzani en 1962 dans la Marche du Monde. Pierre-Jean Louisard, à l'époque, est-il déjà un héros ?
Oui, Barzani est déjà un héros pour le peuple kurde et c'est très émouvant d'ailleurs d'entendre ce témoignage parce que la révolution de 1958 a soulevé d'immenses espoirs parmi ceux majoritaires en Irak qui avaient été exclus du pouvoir et marginalisés, à savoir les chiites et les kurdes. Et le général Qassem a été en Irak un véritable héros également du fait qu'il a sollicité les exclus d'un système qui avait été fragilisé par la révolution de 1958.
Alors ces années 60 en Irak, c'est donc le retour d'exil du leader kurde, mais c'est aussi la présence dans la ville sainte de Najaf de celui qui va devenir le leader de la révolution iranienne, c'est Khomeini. Pourquoi est-il en exil en Irak ?
Alors, il se passe dans les années 60 en Iran des mouvements importants mobilisés par le clergé chiite, par une partie du clergé chiite. Celui qui sera l'imam Khomeini est condamné à mort et il doit, par le régime du Shah, et il doit sa vie sauve au fait que l'ensemble des grands ayatollahs le reconnaissent comme un grand ayatollah avec l'immunité qui va avec. Khomeini part donc en exil, d'abord en Turquie, puis il vient se réfugier dans la ville sainte chiite de Najaf. C'est à l'époque non plus le général Qassem qui est au pouvoir. Il y a eu un coup d'État et le général Qassem a été lui-même exécuté en 1963. Mais c'est un régime qui se veut nassérien de deux frères, les frères Aref. Et c'est sous ce régime que Khomeini arrive à Najaf et commence depuis Najaf à préparer la révolution islamique en Iran.
Et Pierre-Jean Louisard, c'est également sous ce régime qu'un autre personnage très important, c'est bien entendu Saddam Hussein, devient vice-président du Conseil de la Révolution dès 1968 en Irak. À quel clan appartient-il dans cet État irakien dominé par les militaires ?
Alors, en 1968, le régime des frères Aref est renversé par un autre clan arabe sunnite, originaire d'une petite ville au nord de Bagdad qui est devenue célèbre puisque c'est le berceau de la famille de Saddam Hussein, la ville de Tikrit. Et le clan des Tikriti, donc, s'empare du pouvoir derrière le drapeau du Baas. Hein. C'est le second coup d'État baassiste. Et Saddam Hussein, sans être le premier du régime, en 1968, va installer ses réseaux et c'est en 1979 qu'on va le voir arriver à la tête du pays.
Au Proche-Orient, le chef de l'État irakien, le général El-Bakr, a démissionné pour raison de santé. Son remplacement immédiat par M. Saddam Hussein, qui était depuis 10 ans son second, ne devrait pas avoir d'incidence notable sur la politique étrangère de l'Irak.
En Irak, Saddam Hussein, actuel vice-président du conseil de commandement de la révolution, succède à tous les postes qu'occupait le général Elbar, démissionnaire pour raison de santé. Saddam Hussein devient ainsi président de la République irakienne, secrétaire général du parti Baas et président du conseil de la révolution.
Nous sommes en 1978 et Saddam Hussein concentre de nombreux pouvoirs. Mais quel est son point de vue sur la politique étrangère de l'Irak ? Qui considère-t-il comme ses alliés à l'époque ?
Alors, il faut rappeler qu'au cours des années 1970, il y a une modification de la représentation politique au sein de la communauté chiite. Il y a un retour massif du mouvement religieux autour de jeunes clercs. Le plus célèbre d'entre eux est Mohammad Bakar al-Sadr, qui est proche de celui qui sera l'imam Khomeini. Et on voit au cours des années 70 se développer une forme de guerre confessionnelle larvée entre le gouvernement baasiste qui est à coloration sunnite et un mouvement religieux qui a repris sa place aux dépens du parti communiste. Et, en 1979, Saddam Hussein est très inquiet des événements qui se passent dans le pays voisin en Iran avec le retour triomphal de Khomeini à Téhéran en 1979, puisqu'il sent très bien que c'est une menace mortelle pour son pouvoir dans la mesure où la révolution a été préparée depuis son pays et dans la mesure où le clergé chiite en Irak pense que son heure est arrivée.
Et du coup, s'il connaît ses ennemis, qui seraient ses alliés ?
Alors, les alliés de Saddam Hussein, paradoxalement, vont se présenter à lui dans une conception commune de cette menace qu'est la révolution islamique en Iran. Et le premier de ses alliés, ce sera les États-Unis, la France, les pays occidentaux, mais aussi la Russie. Une formidable coalition militaire internationale va se former pour venir en aide à Saddam Hussein et le pousser à attaquer la jeune République islamique qui est alors en pleine révolution et dans un état de faiblesse extrême.
Alors que la guerre Irak-Iran commence, tous les acteurs de l'histoire moderne de l'Irak sont donc en place. Les Américains ont succédé aux Britanniques aux côtés de la minorité sunnite qui dirige le pays. Les Kurdes et les chiites sont exclus et menacent le pouvoir de Saddam Hussein, bras armé des puissances occidentales. C'est ainsi que le 25 septembre 1980, le premier ministre irakien Tariq Aziz est reçu à Paris par le président Giscard d'Estaing.
Nous avons des relations internationales.
Nous entretenons de nombreuses et importantes relations internationales. Dans les situations délicates comme celles que nous connaissons aujourd'hui, il est normal que nous prenions contact avec nos amis de par le monde pour leur démontrer la justesse de notre position. C'est pourquoi j'ai choisi de me rendre en France, avec qui nous avons des relations de coopération et d'amitié, et dont nous nous plaisons à reconnaître le rôle international et souhaiter m'entretenir avec le président français des événements actuels. Nous répondrons à tous nos engagements et nous continuerons nos fournitures de pétrole. Nous ne nourrissons aucune ambition. Notre seul objectif est de recouvrer nos droits. Nous sommes prêts à répondre à toute proposition de pourparlers qui nous serait faite et à expliquer notre position à quiconque nous le demanderait.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous revisitons l'histoire longue de l'Irak au son de nos archives et des nombreux livres de notre invité Pierre-Jean Louisard, dont vous pouvez consulter la liste sur la page de La Marche du Monde. Restez avec nous pour écouter la suite sur RFI.
Marche du monde. Valérie Nivelon.
C'est la suite de la Marche du Monde sur RFI consacrée à l'histoire de l'Irak, un État sous contrôle des puissances étrangères depuis plus d'un siècle. Après les Anglais, ce sont les Américains qui s'invitent dans l'histoire de l'État irakien, un État-nation imaginé en 1920 par les Britanniques, qui masque à l'époque la question confessionnelle. Si les Arabes sunnites d'Irak conjuguent leurs intérêts avec l'Occident depuis la naissance de leur État-nation, ce n'est pas le cas des chiites qui se sont inscrits dans la contestation d'un projet laïque dès le nouvel ordre mondial issu de la Grande Guerre de 1914-1918. Pierre-Jean Louisard, j'aimerais que nous revenions sur la conception de l'État irakien telle que les chiites, eux, pouvaient le penser, une communauté majoritaire et néanmoins écartée du pouvoir en Irak jusqu'à la chute de Saddam Hussein.
Il y a eu deux temps dans le positionnement de la communauté chiite. Il y a eu d'abord celui de l'invasion britannique en 1914-1918 de la Mésopotamie ottomane, qui a vu de façon paradoxale les chiites répondre à l'appel au djihad du sultan calife ottoman à se mobiliser contre, je cite, l'invasion des infidèles. Ce sera donc le djihad de 1914-1918, à un moment où les Arabes sunnites étaient plus en à collaborer avec les Britanniques. Mais une fois tout espoir de retour des Ottomans évanoui, les chiites vont être davantage irakistes, c'est-à-dire enclins à préserver l'identité de l'Irak dans un monde arabe majoritairement sunnite. Et c'est ce qui va les porter d'abord vers le mouvement religieux chiite, ensuite vers un parti communiste irakien laïque, mais qui entendait préserver l'identité de l'Irak et donc refuser de répondre aux sirènes du panarabisme. Et ensuite, avec le retour du mouvement religieux, on va voir s'affirmer la contestation dans le cadre d'un État irakien du monopole du pouvoir par les élites arabes sunnites, que ce soit avant ou après la révolution antimonarchique.
Alors nous sommes revenus tout à l'heure sur la présence en Irak de Khomeini, celui qui va devenir l'ayatollah, Khomeini le guide suprême de la révolution iranienne de 1979. Mais à l'époque, cette révolution islamique, est-ce que dans son projet, elle met forcément en danger le pouvoir sunnite irakien et de quelle façon cela se manifeste-t-il avant bien sûr la guerre Irak-Iran ?
Alors, il y a eu une préparation de la révolution islamique en Iran depuis les villes saintes chiites, avec une très grande osmose entre les clergés chiites, arabes et iraniens. Il faut rappeler que la constitution de 1979 de la République islamique d'Iran s'est très largement inspirée d'une lettre de l'ayatollah Mohammed Bakar al-Sadr, qui était arabe irakien et qui avait répondu à la sollicitation d'un certain nombre de ses partisans pour définir quel serait le régime idéal du point de vue du clergé. Donc, il y avait une menace qui n'était pas, je pense, fantasmée de la part donc du régime de Saddam Hussein. Et c'est très probablement, au vu du caractère mortel pour son régime de cette menace, qu'il s'est engagé dans la guerre en 1980, pensant exporter au-delà des frontières irakiennes un conflit qui était au début un conflit intérieur à l'Irak.
L'Irak va entrer en guerre donc contre l'Iran et l'agresser. Écoutez à l'époque la déclaration du porte-parole de l'ambassade d'Iran en France, M. Azarian. Nous sommes le 25 septembre 1980.
L'armée de M. Saddam Hussein a attaqué notre pays. Et vis-à-vis de cette agression, nous ne faisons que nous défendre. L'Iran a averti le gouvernement irakien qu'en cas d'attaque des installations non militaires, le gouvernement iranien en fera autant. Or, l'aéroport de Téhéran et les installations pétrolières d'Abadan furent attaquées. Les motivations de M. Saddam Hussein pour avoir entamé cette guerre sont les suivantes. Premièrement, le souci de devenir le gendarme du Golfe. Deuxièmement, déstabiliser le régime de la République islamique. Troisièmement, contrecarrer ces conflits internes.
Nous sommes en 1980. Monsieur Azarian, porte-parole de l'ambassade d'Iran en France, énonce sa vision des motivations de Saddam Hussein dans cette déclaration de guerre à l'Iran. Est-ce que Pierre-Jean Louisard, à la lumière de vos recherches, vous partagez ce point de vue ?
Il y a une réalité historique. Hein. Ce n'est pas la République islamique d'Iran qui a attaqué l'Irak de Saddam Hussein, mais l'inverse. Et ça a été occulté pendant de nombreuses années par les pays européens et les pays occidentaux qui s'empressaient d'armer le régime de Saddam Hussein pour qu'il attaque son voisin à l'est de ses frontières. C'est bien le régime de Saddam Hussein qui a attaqué donc la République islamique d'Iran, et on peut considérer que cette guerre de 8 ans entre l'Irak et l'Iran a été la prolongation d'une guerre confessionnelle interne à l'Irak.
Alors cette guerre Iran-Irak interminable, terriblement meurtrière, 1 million de victimes de part et d'autre, personne au fond va vraiment la gagner. Quel a été le rôle des Américains ?
Le rôle des Américains a été de permettre au régime de Saddam Hussein de s'endetter au-delà de toute limite et de toute raison pour s'armer. Les États-Unis l'ont fait avec une arrière-pensée. L'arrière-pensée était d'anticiper la fin de la guerre et de mettre le régime de Saddam Hussein fort, non pas d'une victoire militaire contre l'Iran, mais d'avoir pu contenir la menace de la révolution islamique dans la région, de mettre ce régime à genoux du fait d'un endettement qui plombait l'économie irakienne sur plusieurs générations. Et c'est bien ce qui va se passer, puisque en 1988, lorsque la guerre se termine, le régime de Saddam Hussein est une puissance militaire qui entend être le gendarme du Golfe, mais une puissance au pied d'argile que les Américains vont mettre à bas très rapidement en utilisant l'arme du pétrole par le biais de ses alliés, les pétromonarchies du Golfe, notamment le Koweït.
Alors Pierre-Jean Louisard, vous avez écrit que c'est un jeu de dupes, car ces armes livrées par les Américains seront celles ensuite que les Américains reprocheront aux Irakiens de détenir. Une escalade diplomatique dont l'issue sera la première guerre du Golfe lancée par George W. Bush, le fils de son père.
Oui, il faut rappeler que la première utilisation de gaz, du gaz moutarde dans la guerre a été le fait des troupes irakiennes contre les soldats iraniens en 1980, en 1982, en 1984, et que les États-Unis ont tout fait pour empêcher une condamnation du régime de Bagdad dans l'utilisation d'armements interdits. Les Américains étaient mieux au fait que quiconque de l'état de l'armement irakien, puisqu'ils avaient largement contribué à lui fournir ou à le financer pour qu'il se fournisse dans un tel armement. Et il y a donc eu une très grande mauvaise foi dans la mesure où cet armement qui a été reproché donc en 1990 au régime de Saddam Hussein avait été dans une large part utilisé sans que personne ne trouve rien à y redire contre la République islamique d'Iran durant les années de la guerre.
Écoutez l'annonce solennelle par le président français François Mitterrand le 17 janvier 1991. C'est la guerre.
Depuis ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Depuis ce matin, le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler.
As I report to you, air attacks are underway against military targets in Iraq.
Au moment où je vous parle, des attaques aériennes ont lieu contre des objectifs militaires en Irak.
Our objectives are clear. Saddam Hussein's forces will leave Kuwait.
Nos objectifs sont clairs. Les forces armées de Saddam Hussein vont quitter le Koweït. Le gouvernement légitime du Koweït sera rétabli et le Koweït sera libre à nouveau. L'Irak finira par appliquer les résolutions de l'ONU et ensuite, lorsque la paix sera restaurée, Nous formons le vœu que l'Irak vive comme un membre pacifique et coopératif dans la famille des nations. Nous avons devant nous l'opportunité de forger, pour nous-mêmes et pour les générations futures, un nouvel ordre mondial. Un monde où la loi et non pas la loi de la jungle préside aux destinées des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le serons.
Il faut être solidaire contre les mécréants, contre les agresseurs et leurs alliés. Après l'agression de cette nuit, la nuit du 16 au 17, les agresseurs et à leur tête, le Satan Bush ont attaqué l'Irak en alliance avec les sionistes. Et la guerre, la bataille pour la nation arabe a commencé. Et ce sont les croyants, les combattants de l'islam qui vaincront. Et la victoire est certaine. Car Dieu est avec nous. Et après cette crise, ces moments difficiles, la nation connaîtra la gloire et la victoire. Et les traîtres seront punis et châtiés.
Que se passe-t-il à ce moment-là, Pierre-Jean Louisard? Pour quelles raisons, au fond, les Irakiens ont-ils envahi le Koweït?
Les Irakiens ont envahi le Koweït. Le régime de Saddam Hussein a choisi d'occuper le Koweït tout simplement parce qu'il est tombé dans le piège que les Américains lui tendaient, suggéré par les pétromonarchies du Golfe. Il faut rappeler que Saddam Hussein a sacrifié des centaines de milliers de soldats irakiens pour défendre ses pétromonarchies face à la menace présumée de la révolution islamique en Iran, et que à la sortie de la guerre, ces mêmes pétromonarchies s'inquiétaient de la puissance militaire de l'Irak. Les Américains ont donc fait en sorte d'utiliser l'endettement incroyable de l'Irak pour pousser Saddam Hussein à la faute, et il a fait main basse sur un petit État au sud de ses frontières qui avait pris sa place sur le marché du pétrole en inondant donc ce marché de son pétrole alors qu'il n'avait pas un besoin urgent de liquidité. Et tout ceci a conduit Saddam Hussein à la politique du pire parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour lui sinon de mettre l'économie irakienne sous une tutelle internationale du fait de son degré d'endettement. Il y a donc eu main basse sur le coffre-fort que représentait le Koweït, et la corde que les Américains avaient mis autour du cou de Saddam Hussein pendant les années de guerre contre l'Iran s'est resserrée autour de son cou, puisque ça a été le prétexte pour lancer une guerre et détruire la puissance militaire irakienne.
Et ensuite, l'étau n'a eu de cesse que de se resserrer, Pierre-Jean Louisard, et y compris à l'égard de la population irakienne, avec cette opération pétrole contre nourriture qui symbolise cette action soi-disant humanitaire à l'égard de la population irakienne.
Voilà, tout à fait. Il y a eu ensuite une politique à nouveau perverse de la part des Occidentaux qui ont vaincu militairement le régime de Saddam Hussein, mais qui l'ont sauvé d'un soulèvement généralisé, notamment des chiites et des kurdes, en février-mars 1991, parce que pour eux, il valait mieux traiter avec un régime de Saddam Hussein vaincu, qui leur a permis donc d'installer une sorte de tutelle internationale par le biais des résolutions de l'ONU sur un pays riche en pétrole. Et on va voir donc, à travers l'embargo, à travers un certain nombre de résolutions, la souveraineté de l'Irak mise à mal, et la population irakienne souffrir de plus en plus de punitions pour des crimes dont elle n'était pas responsable.
Mais pendant ce temps-là, vous, Pierre-Jean Louisard, vous continuez à vous rendre en Irak, vous continuez à rencontrer vos amis à Bagdad. Qu'en est-il justement de, je dirais, la déliquescence de cet État irakien à la lumière des différentes confessions qui génère la diversité irakienne.
Alors, la manifestation la plus tangible de cette déliquescence, c'est l'émergence d'une entité autonome kurde, puisqu'on sait qu'à partir de 1991, les dirigeants kurdes vont avoir bénéficié d'un traitement différent des chiites, desquels les occidentaux continuent à se méfier, et il va y avoir donc une interdiction pour l'armée irakienne de reprendre pied au Kurdistan, et on est là à l'origine donc d'un éclatement ethnique de l'Irak qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En ce qui concerne les relations entre sunnites et chiites, et donc le clergé chiite, comme la population chiite, vont à nouveau baisser la tête durant toute la décennie 1990, avec l'espoir qu'un jour la politique des grandes puissances changerait à leur égard.
Espoir récompensé. Le 17 mars 2003, George W. Bush lance son ultimatum.
Toutes ces décennies de tromperie et de cruauté touchent maintenant à leur fin. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak d'ici 48 heures. Leur refus de le faire entraînera un conflit armé qui commencera au moment que nous choisirons. Pour leur propre sécurité, tous les étrangers, y compris les journalistes et les inspecteurs, devraient quitter l'Irak immédiatement. Beaucoup d'Irakiens peuvent m'entendre ce soir dans une traduction radiodiffusée et j'ai un message pour eux. Si nous devons commencer une campagne militaire, elle sera dirigée contre l'homme sans scrupules qui dirige votre pays et pas contre vous. Lorsque notre coalition lui enlèvera le pouvoir, nous apporterons la nourriture et les médicaments dont vous avez besoin. Nous renverserons l'appareil de terreur et nous vous aiderons à bâtir un nouvel Irak prospère et libre.
Écoutez la réponse de Saddam Hussein 3 jours plus tard.
Chers amis, chers combattants du mal, dans le monde entier, je vous salue. Vous avez remarqué comment Bush a pris à la légère vos positions et vos opinions. Votre position qui est contre la guerre et qui appelle à la paix. Et il a commis son crime ignoble. Dans cette journée, nous vous promettons, au nom du commandement et du peuple irakien, ce peuple combattant, et au nom de l'armée irakienne, dans cet Irak riche en civilisation, en foi, en histoire, nous vous promettons que nous allons combattre cette invasion. Et nous allons les combattre jusqu'à ce qu'ils perdent patience. L'Irak vaincra.
Et la position de la France, incarnée par le président Jacques Chirac.
Les opérations militaires viennent de commencer en Irak. La France regrette cette action engagée sans l'aval des Nations Unies. Et je souhaite que ces opérations soient les plus rapides et les moins meurtrières possibles et qu'elles ne conduisent pas à une catastrophe humanitaire. Jusqu'au bout, la France, avec bien d'autres pays, s'est efforcée de convaincre que le nécessaire désarmement de l'Irak pouvait être obtenu par des voies pacifiques. Ces efforts n'ont pas abouti. Quelle que soit la durée de ce conflit, il sera lourd de conséquences pour l'avenir. Mais la France, fidèle à ses principes, primauté du droit, équité, dialogue entre les peuples et respect des autres, continuera à agir pour que les crises qui ensanglantent ou menacent le monde trouvent des solutions justes et durables dans l'action collective, c'est-à-dire dans le cadre des Nations Unies, seul cadre légitime pour construire la paix en Irak comme ailleurs.
Ce qui est étonnant, Pierre-Jean Louisard, c'est que Jacques Chirac et la France s'est démarqué de la position américaine pour finalement déclaré à la chute de Saddam Hussein que finalement les Irakiens étaient débarrassés d'un dictateur. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il y a eu une histoire d'amour, si l'on peut dire, entre la France et le régime de Saddam Hussein, qui était lié à la fois à des intérêts économiques. La France a beaucoup participé à l'armement de l'Irak contre la République islamique dans les années 80, mais aussi à une fausse proximité idéologique, puisqu'il y avait une hostilité viscérale envers les enturbanés chiites, notamment au Quai d'Orsay à l'époque, et que la politique arabe de la France était davantage encline à faire confiance à des acteurs qui avaient un discours laïque, même si cette laïcité, comme c'est le cas pour Saddam Hussein, n'était qu'un leurre.
Écoutez enfin la réaction des habitants de Bagdad à la chute de Saddam Hussein. Ils manifestent devant le palais du chef de l'État irakien, désormais déserté.
Une centaine d'Irakiens disent leur volonté de paix au pied des deux grands hôtels où sont concentrés les journalistes de la terre entière en plein cœur de Bagdad. Face à eux, dans leurs chars, des soldats américains vigilants mais sereins, volonté de paix, désir aussi d'un avenir qui leur appartienne.
We need government free Iraqi. No American, no British, no anyone from this. No, 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 in country, in my country, in this country from Iraq.
Dans un anglais chaotique et déterminé, cet étudiant dit que les Irakiens veulent avoir leur propre gouvernement, qu'ils ne veulent pas être dirigés par les Américains et les Britanniques. Le jeune homme est très en colère contre Saddam Hussein.
This Saddam gave it to my country.
C'est Saddam qui a donné mon peuple aux Américains. C'est pour ça que je voudrais l'avoir devant moi, pour pouvoir le tuer. Il a donné l'argent du peuple aux Américains et à l'Occident.
Satisfaction d'être débarrassé de Saddam, mais refus d'être occupé trop longtemps par une puissance étrangère. Un sentiment largement partagé ces jours-ci dans la capitale irakienne. Bruno Darou, Manu Pochez, Bagdad, RFI.
Manifestation à Bagdad en 2003, presque un siècle après l'occupation britannique, cette occupation américaine qui se met en place et qui ne réglera rien jusqu'à ce que le président Obama décrète le retrait des troupes américaines en Irak. Pierre-Jean Louisard, dans quel état la société irakienne est-elle sortie de ce siècle d'ingérence et l'organisation État islamique est-elle en quelque sorte prospérée sur cette manipulation des confessions en Irak ?
Il faut rappeler que 2003 a été une date très importante dans l'histoire de l'Irak, puisque la guerre contre le régime de Saddam Hussein et la chute du régime de Saddam Hussein ont également signifié l'effondrement de l'État irakien, tel qu'il existait depuis 1920, et que cet effondrement a entraîné donc la perte du pouvoir pour la première fois de leur histoire par des élites issues de la communauté arabe sunnite d'Irak. Une grande majorité des chiites s'étaient convaincus au fil du temps qu'ils n'arriveraient jamais à renverser le régime de Saddam Hussein sans une action étrangère. Et c'est bien ce qui s'est passé en 2003, où il y a une sorte de neutralité chiite et kurde face à l'avancée américaine. Et à partir de 2003, on va donc voir les Américains solliciter les exclus de l'ancien système, les chiites et les kurdes, faute de mieux, pour reconstruire un État, mais un État, je dirais, toujours à la libanaise, même si ça n'est pas avoué dans le cas de l'Irak, c'est-à-dire où chacun est sollicité non pas en fonction de ses opinions politiques, mais en fonction de son appartenance communautaire. C'est donc un tandem chiito-kurde qui va remplacer donc le monopole du pouvoir par des élites arabes sunnites, mais toujours avec le même dilemme: comment intégrer toutes les communautés sur une base confessionnelle. Le confessionnalisme politique, on le voit au Liban, n'a jamais pu ouvrir un espace public ni une citoyenneté partagée, et c'est bien l'exclusion des Arabes sunnites qui a ouvert la voie, une voie triomphale, à un acteur nouveau, l'Al-Qaïda puis l'État islamique, qui s'est imposé comme le grand protecteur d'une communauté qui se juge victime, à juste titre d'ailleurs, des événements.
Alors l'organisation État islamique recule. On peut peut-être aussi commencer à réfléchir bien sûr à un après-organisation État islamique. En tout cas, est-ce qu'il vous semble encore possible pour l'État irakien d'être un État multiconfessionnel, ou forcément il va falloir aller vers une sorte de fédéralisme ?
L'État islamique a vu une offensive majeure dirigée contre lui débuter en octobre 2016 et force est de constater qu'en avril 2017, Mossoul n'est toujours pas tombé, ce qui en dit long sur le soutien réel dont jouit l'État islamique parmi la population locale qui craint plus que tout autre scénario un retour de l'armée et des milices chiites qui sont dans le sillage de l'armée. Il me semble que l'État irakien est définitivement mort avec cette tripartition en fonction des appartenances communautaires, kurdes, chiites et arabes sunnites, et qu'il n'y aura pas de solution politique si les puissances engagées se limitent à une action militaire. L'État islamique peut perdre son assise territoriale, mais on le voit aujourd'hui, il sera disséminé dans l'ensemble de l'Irak, comme tend à le prouver la recrudescence du terrorisme anti-chiite aujourd'hui dans des zones que l'on croyait épargnées.
Merci infiniment, Pierre-Jules.
Merci à vous.
Irak, un État sous contrôle. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel avec les archives de RFI et de l'INA. Plus d'infos sur la page de La Marche du Monde, vous pouvez également nous écrire marche.monde@rfi.fr et vous exprimer sur notre page Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.